Parler un petit peu de Megillat Esther. La Megillat nous raconte que le troisième jour que Esther a jeûné, ça veut dire le troisième jour après que Haman a reçu la permission d'envoyer des lettres exterminer les Juifs, donc Esther elle a décidé de rencontrer Ahasuerosh. Elle est donc venue sans permission dans le palais royal. Et le passage qu'il dit, Ahasuerosh, il était assis sur le trône. Le texte, il dit comme ça. Vahi vayom ashlishi, ce fut le troisième jour. Va-t-il bachester malchut, elle s'habille avec des habits royaux. Va-t-amot bachatsar melech apnimit, nochach bet amelech. והמלך יושב על כיסא מלכותו, le roi était assis sur le trône de son royaume, בבית המלכות, dans la maison de royauté, נוכח פתח הבית, en face de la porte. ויהי ספי קירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נסה חן בעיניו. Quand le roi a vu Esther, elle lisait, ויושב המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, le roi a tendu le sceptre. ותקרב אסתר ותגר בראש השביט ותגר בראש השביט אל התוש של הסבטר ויאמר לו המלך מלך אסתר המלכה כסקי תויה אסתר לרן ומה בקשתך קליטה דמונות עד חצי המלכות וינתן לך יוסקה למועצ'י דו רויום אססך דוני התואר אחשוורוש פרופוס דונק האסתר דלוי דוני למועצ'י דו סון רויום. Quel est le sens de ces paroles? Ça veut dire quoi la moitié du royaume? Ahasuerosh, il régnait sur 127 pays. La moitié, c'est 63 pays et demi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais te donner peut-être, si tu veux, je te donne 63 pays. Elle va faire quoi 63 pays? Elle va faire quoi? Elle va administrer. Esther, elle a une administration. Elle va nommer des milliers de députés et des maires pour gérer 63 pays. Comment? Ahasuerosh, il gère tout. Ah, elle va prendre des impôts. Qu'est-ce qu'il voulait dire Ahasuerosh? Il y aura des millions des impôts. Toi, tu prends la moitié des impôts de 127 pays. Elle va faire quoi avec l'argent? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec tout cet argent? Qu'est-ce qu'elle a besoin de cet argent? Ahasuerosh, il a besoin de cet argent. Gérer un pays, ça coûte cher. Il faut bien savoir comment gérer un pays. Il faut avoir beaucoup d'argent. Il est prêt à offrir comme ça la moitié. Ça veut dire quoi? Bon, il parlait des exagérations. On dirait chez nous en France, il parlait à la Marseillaise, jusqu'à la moitié du royaume, comme ça, des paroles comme ça, des flatteries. Il flatte. Bon, c'est un peu bizarre, on ne parle pas comme ça. Alors, le Gemara pose cette question. Quel est le sens? Je vais donner la moitié. Alors, le Gemara nous explique qu'est-ce que ça veut dire la moitié? La moitié, ça veut dire le milieu. Rashi sur place, il apporte la Gemara Meseret Megillah. Davar shehu be'emtsa ou bechatsi hamalchut. Quelque chose qui est au milieu du royaume. Le milieu entre l'Inde et l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'il est au milieu? Ou bet hamikdash. C'est le bet hamikdash. Shitril olivnoto vimei koresh. Alors, le milieu du royaume, c'est le Beit HaMikdash, que les Juifs ont commencé à construire à l'époque de Koresh, mais ils ont arrêté de construire. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Que Ahasuerosh dit à Esther, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, je te donne. mais je ne peux pas te laisser construire le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash qui est au milieu du royaume. Et la Gemara nous dit le mot Khatsi veut dire milieu. Mais le mot Khatsi veut dire aussi moitié du royaume. Le mot Khatsi veut aussi dire Chotsets, couper, séparer. Le Beth Amikdash sépare le royaume. Le Beth Amikdash, il est au milieu du royaume. Alors je ne te laisse pas construire le Beth Amikdash. Voilà ce que la Gemara nous explique. Ça, c'est le sens des paroles de Achashverosh. Mais la question qui se pose ici, Achashverosh ne savait même pas qu'Esther, elle est reine. Non, excusez-moi. Achashverosh ne savait même pas qu'Esther, elle est juive. Il a toujours embêté Esther, dis-moi, tu fais partie de quel peuple? En Esther magedet et ama vet moladeta. La Megillah nous met bien l'accent dessus qu'Esther a refusé systématiquement de dévoiler qui elle est, à quelle nation elle appartient. Donc Achashverosh ne savait pas qu'elle est juive. Alors maintenant Esther la reine, elle peut être pakistanaise, iranienne, égyptienne, il n'a aucune idée. Elle vient, elle voudrait sûrement demander quelque chose. Donc Achashverosh, il est très généreux. Il dit, qu'est-ce que tu as, ma reine? Tout ce que tu me demandes, je suis prêt à te donner, mais pas la construction du Beth Amikdash. Mais pas la construction du Beth Amikdash. Mais ça veut dire quoi? Qui parle du Beth Amikdash? Comment Achashverosh, il pense, comment ça lui monte à l'esprit qu'Esther serait venue pour éventuellement demander la construction du Beth Amikdash. Il y a 10 000, 100 000 personnes qu'une reine peut demander à son mari. Elle peut demander un médicament, elle peut demander des vacances, elle peut demander mille choses. Et Achashverosh, il pense, peut-être cette reine, je ne sais pas de quel peuple elle vient, peut-être elle demandera la construction du temple à Jérusalem. Mais comment ça montait à l'esprit d'Achashverosh que ça c'est la demande d'Esther? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre des choses fondamentales de Megillat Esther. À quelle époque, dans quelle époque se déroule cet événement? Comment ça se situe le Beth Amikdash? Comment elle est la situation des Juifs en Perse, des Juifs en Eretz Israël? Quelle est la politique qu'Achashverosh a vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des Eretz Israël, vis-à-vis du Beth Amikdash? Pour comprendre ces événements, il nous faut lire quelques textes dans le livre de Ezra. Il nous faut lire des textes dans le Sefer de Daniel. Il nous faut lire des textes dans Yeshaya. Il nous faut lire des textes de la Gemara Mesechet Megillah. Après, on commence à comprendre de quoi il s'agit ici. Alors, d'abord le texte, il dit tout au début de Sefer Ezra. Il y avait un roi qui s'appelait Koresh. Ce Koresh, il a régné après la mort de Belshazzar. Qui c'est Belshazzar? Alors, pour comprendre un petit peu, Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie, il a détruit le premier Beth Amikdash. Il a fait exiler les Juifs. Il a régné 45 ans, le premier, et c'est la 19e année de Nebuchadnezzar qu'il a détruit le Beth Amikdash. Il a régné encore 26 ans. Une fois que Nebuchadnezzar est mort, c'est son fils Evil-Merodach qui a régné 23 ans. Après, le fils d'Evil-Merodach, il s'appelait Belshazzar. Lui, il a régné. C'était le dernier des rois de l'Empire de Babylonie. Maintenant, ce Belshazzar, le texte nous raconte dans Sefer Daniel, que Belshazzar il a organisé, la troisième année de sa reine, il a organisé un grand festin. Et pendant ce festin, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, il a bu du vin, il a servi à tous les convives du vin pas kasher dans les ustensiles du Beth Amikdash, et ils ont chanté pour l'idolâtrie. Alors le texte dit dans Sefer Daniel,
il
n'y
a pas d'image.
Le texte dit dans Sefer Daniel que Nebuchadnezzar avait sorti les ustensiles du Beth Amikdash, il les a amenés dans son palais. Mais Nebuchadnezzar n'a jamais osé de les utiliser. Le premier qui a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash était donc le roi Belshazzar. Pourquoi lui l'a osé? La Gemara nous explique parce que tout le monde avait entendu que le prophète Yirmiya a prophétisé que la catastrophe sur le peuple juif durera 70 ans et après il y aura le deuxième Beth Amikdash. Mais il y avait un doute à l'époque, à quel moment commencent les 70 ans? Est-ce que c'est depuis que Nebuchadnezzar est devenu roi, depuis la première conquête de Nebuchadnezzar à Yerushalayim, ou est-ce que c'est depuis la destruction du Beth Amikdash? Alors Belshazzar a fait le calcul. Il a dit, peut-être le prophète Yirmiya a dit la vérité. Les Goyim craignaient les prophètes juifs. Il a dit, si Yirmiya a raison que le Beth Amikdash va être construit, alors si vraiment leur Dieu il est fort, je ne veux pas commencer avec celui-là. Mais il a fait un calcul et la troisième année du roi de Belshazzar, d'après son calcul, les 70 années étaient terminées. Il n'y avait pas de Beth Amikdash. Pour lui, ça a été sûr, Yirmiya est un menteur. Donc, je ne crains plus rien. Et il a pris les ustensiles en or et en argent et il a servi pendant ce fameux repas et ils ont chanté pour la Avodah Zara. Le texte raconte, c'est un texte très connu, qu'au milieu du repas, il y a une main qui a écrit sur le mur un texte. Et ce texte-là a été codé. Et Belshazzar, il tremblait de peur. Il était sous aussi, mais il tremblait, il voyait, il y a un message très spécial. Il a demandé que les gens viennent pour lui expliquer, personne ne savait expliquer. Il est venu Daniel. Daniel, il a dit, ce texte qui vient d'être écrit, « Takal, takal, mené au paras, mené au mé, takal au paras, compter, compter, peser, couper », ça veut dire, Dieu, il a jugé l'empire babylonien. Dieu, il a regardé les mitzvot, la averot, de tout ce que la Babylonie a fait. Et voilà, Dieu est arrivé à la conclusion qu'il faut détruire l'empire babylonien. Donc, tu étais compté, ça a été pesé, il y a plus d'averot que de mitzvot. Et voilà, tout il va s'écrouler. Cette même nuit, Belshazzar a été assassiné. Ça, c'est marqué dans Sefer Daniel. Si je ne me trompe pas, c'est chapitre 5. Après qu'il est mort, est venu un autre roi, Koresh de Mède. Alors ce Koresh est devenu le roi. La première des choses qu'il a fait, il a publié que les Juifs ont le droit de reconstruire leur Beth Amikdash. Les Juifs, ils ont demandé Koresh, permettez-nous de construire leur Beth Amikdash. Il a dit oui. Mais pas seulement je vous permets, je le considère comme une mission que le Dieu du monde m'a demandé de faire. Parce que le prophète Yeshaya a dit, le jour que les Perses vont être les rois du monde, ce jour-là, Koresh, c'est un nom de famille sûrement, Koresh, le nom des rois de Perse, Perse avait toujours des rois, mais ils ne régnaient pas sur le monde entier. Mais le jour que les Perses vont régner sur le monde entier, c'est à eux que Dieu a confié la construction du deuxième Beth Amikdash. Comme ça, Yeshaya Hanavi a dit. Ce Koresh a pris les paroles de Yeshaya Hanavi sérieux. Donc il a dit, les Juifs, je suis d'accord qu'ils construisent le Beth Amikdash. Il a même pris des ustensiles du premier Beth Mikdash, il a donné aux Juifs, montez à Yerushalayim et construisez votre temple. Je vais lire ici un peu ce qui est marqué dans Ezra, premier chapitre. Dans la première année de Cyrus, de Koresh, roi des Perses, à l'époque où on devait s'accomplir la parole de l'Éternel annoncée par Yirmiya, l'Éternel éveilla le bon vouloir de Cyrus, de Koresh, roi des Perses, et celui-ci fit proclamer dans tout son empire, par la voix et aussi par des missives écrites, ce qui suit. Ainsi parle Koresh, roi des Perses. L'Éternel, Dieu du ciel, m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire du Proche-Orient. Et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem qui est en Yehuda, dans le territoire de Yehuda. S'il est parmi vous quelqu'un, parmi vous des Juifs, quelqu'un qui appartienne à son peuple, que son Dieu soit avec lui, pour qu'il monte à Yerushalayim, qui est en Yehuda, et bâtisse le temple de l'Éternel, Dieu d'Israël. De ce Dieu qui réside à Yerushalayim, tous ceux qui restent de ce peuple juif, quelle que soit leur résidence, leurs compatriotes devront les gratifier d'argent, d'or, d'objets, de valeurs et de bêtes, de sommes, en même temps que d'offrandes volontaires destinées au temple de Dieu à Yerushalayim. Bon, Ezra Sofer nous raconte que quoi? Que tout a été bien fait, les Juifs sont montés, ils ont commencé à construire le Beth Amikdash. Mais est intervenu un phénomène. Il y avait des gens, des non-Juifs, des demi-Juifs, qui habitaient en Eretz Israël à l'époque, les Chomronim, les Samaritains. Quand eux, ils ont vu que les Juifs commencent à construire le Beth Amikdash, ils sont venus chez les Juifs et ils ont dit, vous savez, nous sommes aussi Juifs comme vous. Depuis l'époque de Sanhérif, qui nous a exilés de l'Irak et il nous a installés dans les territoires des 10 tribus, nous servons le même Dieu que vous. Alors, nous voulons aussi aider, participer à la construction du Beth Amikdash. Les Juifs qui étaient à Yerushalayim, qui construisaient le Beth Amikdash, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas faire le Beth Mikdash ensemble avec vous. Nous allons faire le Beth Mikdash tout seul. Pourquoi? Parce que les Chomronim étaient des gens, comme le texte du Tanakh nous raconte, ils craignaient Dieu et craignaient d'autres dieux aussi. Ils étaient croyants et non-croyants. Ils appliquaient la religion juive et ils n'appliquaient pas la religion juive bien. Les Chomronim, c'était ce genre de peuple qui se convertissait en masse, mais qui a mal assimilé le judaïsme, qui n'ont pas bien compris ce qu'est être juif, et qui faisaient un demi-judaïsme. Les Chachamim, les constructeurs du deuxième Beth Mikdash, ne voulaient pas que ce peuple participent à la construction du Beth Amikdash. S'ils vont participer à la construction du Beth Amikdash, évidemment, ils vont demander d'être considérés comme des associés et le culte au Beth Amikdash, plus tôt ou plus tard, ou tout de suite, il va être déformé. Ils ne connaissent pas bien les halakhot de la Torah. Ils vont vouloir faire les korbanot à leur guise. Ils risquent de faire des Kohanim qui ne sont pas de la lignée de Aaron à Kohen, comme on verra plus tard dans l'histoire. Ils ne vont pas faire attention à Halakhot. Les Chachamim ne voulaient aucun prix qu'eux participent à la construction. Alors ils ont dit non monsieur, nous allons construire le Beth Amikdash comme Koresh nous a demandé de faire, nous les Juifs. Sûrement ils étaient d'accord que les Chomronim fassent des Korbanot au Beth Amikdash, comme il était toujours la coutume qu'un Goy qui veut faire un korban peut faire un korban au Beth Amikdash, mais pas qu'il ait fait partie des gens qui gèrent le Beth Amikdash. Une fois que les Juifs ils ont donné cette réponse, il est marqué dans Sefer Ezra, ces Chomronim se sont terriblement énervés. Ils se sont tellement énervés, ils ont écrit une lettre au roi Koresh, dans laquelle ils ont sali les Juifs
et pas seulement les Juifs qui habitaient Yerushalayim, mais le peuple juif dans son entier, ils ont dit à Koresh, tu sais que les Juifs, à l'époque du premier Beth Amikdash, ils avaient des rois, ils gênaient les nations autour. Tout le Proche-Orient souffrait des Juifs. Ils disaient que les Juifs, leurs rois, étaient des gangsters. Tout le monde souffrait d'une lettre de Lashon Hara, de Motsi Shemra, des médisants sur le peuple juif terrible. Le scribe de cette lettre, il s'appelait Shamshai. Ce Shamshai, d'après la Gemara, n'est autre qu'un des enfants de Haman. Haman avait beaucoup d'enfants. Un des enfants s'appelait Shamshai, qui était en Eretz Israël à l'époque. Lui, il était le scribe de cette lettre. Alors donc, ils ont demandé à Koresh de ne pas permettre aux Juifs la construction. Je vais lire ici un petit peu le texte. C'est dans Ezra chapitre 4. Les adversaires de Yehuda et de Binyamin, ayant appris que les Juifs revenus de l'exil bâtissaient un sanctuaire à l'Éternel, Dieu d'Israël, se présentèrent à Zerubbabel et aux chefs des familles et leur dirent : nous voulons bâtir de concert avec vous, car nous recherchons votre Dieu. Et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis le jour de Asachadon, c'est-à-dire Sancheret. C'est à lui, dans le texte en hébreu, c'est marqué Lo anuzochim, à lui nous égorgeons. Mais le mot Lo, il est écrit et prononcé autrement. Une fois avec Aleph, une fois avec Vav. Ça veut dire à lui nous offrons. Si c'est avec Vav, si c'est avec Aleph, c'est pas à lui. C'est-à-dire que dans. En vérité, les korbanot n'étaient pas vraiment que à Dieu, c'est d'autres. Alors je continue le texte. Zerubbabel, Yeshua et les autres chefs de famille des Juifs leur répondirent : il ne vous appartient pas de construire avec nous une maison à notre Dieu. Nous seuls, tant que nous sommes, nous voulons faire la construction en l'honneur de l'Éternel Dieu d'Israël, ainsi que nous l'a ordonné Koresh, roi des Perses. Alors la population du pays, c'est-à-dire les Chamronim, s'appliqua à décourager les habitants de la Yehuda et de les détourner de bâtir en les intimidant. De plus, ils soudoyaient contre eux des personnages influents pour entraver leur projet, tant que vécut Koresh, roi des Perses, et jusqu'à règne de Darius, roi des Perses, sous la règne d'Achashverosh. Dès les débuts de son règne, ils envoyèrent une accusation écrite contre les habitants de Yehuda et d'Yerushalayim. Par la suite, la lettre qu'ils ont écrite à Koresh est écrite en détail. Que le roi sache que les Juifs qui sont partis de chez toi sont arrivés près des Chinois à Yerushalayim. Ils rebâtissent cette ville rebelle et mauvaise. Répare les murailles et creuse les fondations. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et les murailles réparées, ils ne paieront plus ni tribut ni impôt, ce qui portera préjudice au trésor royal. Puisque nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous siède pas d'être témoins du tort fait au roi, nous mandons ceci au roi et l'instruisons aux seules fins qu'on fasse des recherches dans les archives de tes ancêtres, les ancêtres de Koresh, tu trouveras dont ses archives et t'assurera que cette cité, c'est-à-dire Jérusalem, est une cité rebelle et funeste au roi et aux provinces, qu'on y a fomenté des révoltes dès les temps antiques. Ce qui a causé la destruction de cette cité, ça veut dire ces gens-là salissent maintenant le peuple juif sur plusieurs siècles en accusant les juifs d'être des troublions. Nous faisons savoir au roi que si cette cité est rebâtie et ses murailles rétablies, la conséquence sera que tu n'auras plus de part au pays en deçà du fleuve. Ça veut dire, ils disent comme ça, toi, Cyrus, tu règnes de l'est à l'ouest. Après Achashverosh, on voit il régnait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ça veut dire l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, la Jordanie, le Liban, Eretz Israël, l'Arabie, après l'Égypte, le Soudan, le Kenya, l'Érythrée, l'Éthiopie, tout ça, Achashverosh, il régnait. Maintenant, au milieu, il y a un fleuve. Ce fleuve, il s'appelle l'Euphrate. Maintenant, donc, l'Empire perse régnait de l'est de l'Euphrate et aussi de l'ouest. Maintenant, ces gens, ils disent que si les Juifs, ils vont rebâtir Jérusalem, le Beth Amikdash, ils vont créer ici un État, alors toi, roi de Perse, tu ne pourras plus régner en dessous du fleuve. Ça veut dire que tu perdras la partie de l'Empire perse qui est à l'ouest de l'Euphrate. Ça veut dire que les Juifs, avec leur pays, leur ville, ils vont te couper la moitié de ton royaume. Ils vont amputer ton royaume. Maintenant, nous allons comprendre beaucoup plus simple ce que Achashverosh a dit à Esther. Si on construit le Beth Amikdash, At Chatzi HaMalchut, je te donne, mais je ne te donne pas le Beth Amikdash parce que la moitié du royaume va partir. Parce que le Beth Amikdash Chotzetz, il coupe l'Empire perse en deux. Mais nous ne savons pas encore pourquoi Achashverosh il s'adresse à Esther avec ces paroles. Mais on comprend au moins en quoi le Beth Amikdash pourrait être considéré comme la moitié du royaume que Achashverosh sera obligé de se faire amputer. Mais je continue à raconter d'abord l'histoire. Ce Koresh, quand il a reçu cette lettre, il a écouté les conseils bienvenus de ses chambronim. Il a écrit une lettre aux Juifs de Yerushalayim. Tout de suite, vous arrêtez de construire le Beth Amikdash. Je vous interdis de construire. Et les Juifs, ils ont écouté, ils ont arrêté de construire. Une fois que Koresh est mort, est arrivé un autre roi, qui est Achashverosh. Achashverosh est devenu le roi. Or, ce Achashverosh, il est marqué dans Megillat Esther, tout au début. Mishnat Shalosh le Molcho, la troisième année de Achashverosh, que Shevet HaMelech Achashverosh al Kiseh Malchuto. Quand Achashverosh était assis sur son trône la troisième année, alors il a organisé un festin. Tout le monde connaît le festin d'Achashverosh qui durait 180 jours. Et la dernière semaine, il a fait le festin, il a invité les gens de Shushan, et spécialement les Juifs de Shushan, ce fameux jour que quoi, que Vashti est morte. Bon, ça tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, le texte il dit que Shevet HaMelech Achashverosh, quand il était assis sur son trône, mais Achashverosh était assis sur son trône depuis la première année, on dit la troisième année, quand il était assis sur son trône. C'est-à-dire quand il était assis sur son trône. La Gemara explique le sens, il est comme ça. Qu'Achashverosh, il a fait comme Belshazzar. Il a réfléchi, est-ce que les 70 années, ils vont... Puis Yirmiah Navi l'a parlé, c'est du vrai ou c'est du faux? Les Juifs, ils ont demandé à Achashverosh la permission de continuer à construire le Beth Amikdash. Et Achashverosh, comme je lisais les textes avant dans Sefer Ezra, il a interdit sous la reine d'Achashverosh, c'est dans chapitre 4, Ezra chapitre 4, pasuk 6, sous la reine d'Achashverosh, dès le début de son règne, il envoyait une accusation écrite contre les habitants de Yehuda et de Yerushalayim. Ça veut dire, les Juifs demandaient la permission de construire, Achashverosh il a interdit de construire. Mais la troisième année, qu'est-ce qu'il se passait? Il a fait le festin. Pendant ce festin, ils ont bu du vin. Et le texte, il dit, ils ont sorti des kelim, ve kelim, mi kelim, shonim. Toutes sortes des ustensiles. La Gemara dit dans Masechet Megillah, c'était des ustensiles du Beth Amikdash. Il a fait la même chose que Belshazzar. Malgré qu'il a vu que Belshazzar est mort pendant le festin, puni par Dieu, parce qu'il a osé d'utiliser les kelim du Beth Amikdash, comme Daniel lui a expliqué. Il a dit, oui, Belshazzar, il a utilisé trop tôt les kelim. Mais moi, j'ai fait un deuxième calcul. La Gemara nous fait le calcul que Achashverosh il a fait. Maintenant, la troisième année que je règne, les 70 années du prophète Yirmiah sont terminées, et le Beth Amikdash n'est pas construit, donc c'est un monde de Yirmiah. Donc, j'ai plus rien à craindre de ce Beth Amikdash. Donc, il a fait le festin, il a utilisé les kelim du Beth Amikdash. Et malgré que lui n'est pas mort, c'est vrai, mais sa femme Vashti, elle est morte. Alors, ça c'est les débuts, la troisième année d'Achashverosh. Après, Megillah nous raconte, la septième année d'Achashverosh, il a donc nommé une nouvelle reine, ça c'était Esther. L'onzième année d'Achashverosh, Haman est venu chez Achashverosh pour demander la permission de massacrer les Juifs. C'était la 66e année après la destruction du premier Beit HaMikdash. Quatre années plus tard, à la fin de la reine d'Achashverosh, Achashverosh y régnait 14 ans, alors c'était le nouveau roi qui est devenu le roi de Perse, Dariavesh, le deuxième, Dariavesh numéro 2, et c'est lui qui a de nouveau permis aux Juifs de construire le Beit HaMikdash. Et d'ailleurs, Chag Esrar et Malachi, ils ont déjà commencé sans permission de construire le deuxième Mikdash après les 70 années que c'était fini, 70 années après la destruction. Maintenant, pour revenir en arrière, Haman est venu donc chez Achashverosh. Il a dit, monsieur Achashverosh, permettez-moi de déterminer les Juifs. Achashverosh était d'accord. Il a dit à Haman, je suis d'accord. Il a enlevé la bague, il a donné à Haman. Mais dans cette histoire, qu'Achashverosh a permis à Haman de détruire les Juifs, il y a quelque chose de très intéressant. Le texte il dit, Haman, il a demandé à Achashverosh, « Aseret à la fim kikar kesef eshkol a yede osi hamlacha, la vie el ginze hamelech. » Vous savez, vous, monsieur le roi, je vous demande d'exterminer les Juifs, mais je suis prêt à vous offrir de l'argent à Seret à la fim kikar kesef. 10 000 kikar kesef. C'est quoi kikar? C'est un bloc d'argent. 10 000 blocs d'argent. Je vais faire peser par les travailleurs pour les amener dans le trésor du palais royal. Ça veut dire qu'Haman était prêt à payer à Achashverosh une immense somme d'argent. Nous, Achashverosh dit à Haman, Hakesef natun lach, veha'am la'asot bo katov ve'enecha. Tu peux garder l'argent. Tu n'as pas besoin de me chercher dedans à porter l'argent. Garde l'argent pour toi et fais avec ce peuple ce que tu as envie de faire. Ça veut dire quoi? Haman propose à Achashverosh deux choses. De lui payer un immense somme d'argent et la permission de tuer les Juifs. Achashverosh, il est d'accord qu'il tue les Juifs. Et il refuse l'argent. Comment il refuse l'argent? Où on a vu qu'un roi, il refuse de l'argent? Une immense somme comme ça, des milliards. Et il refuse Achashverosh. Mais il est fou. Pourquoi il refuse l'argent? Tu veux donner la permission? Bon, très bien. Mais Haman, il est prêt même à payer pour recevoir la permission. Tu veux donner la permission? Mais prends l'argent. Pourquoi tu refuses l'argent? Ça, c'est la question de la Gemara. Sur ça, la Gemara répond, cette histoire ressemble à deux voisins. Un voisin, il avait un trou dans sa terre. Il avait besoin de la terre pour remplir le trou. Le voisin, il avait une petite monticule de terre. Et il avait besoin de se débarrasser. Mais le voisin ne le savait pas. Alors le voisin à qui manquait la terre, il est venu, il a dit, cher voisin, il me manque un peu de terre pour remplir le trou. Je suis prêt à te payer beaucoup d'argent pour que tu me vends la terre. Alors l'autre, il dit, l'autre, il pense, mais c'est super. Il va me débarrasser, ces terres qui ont trop, que je veux me débarrasser. Il dit, tu sais, tu peux garder l'argent pour toi et prends-moi ma terre gratuite. La Gemara nous raconte que ceux qui demandaient, c'était Haman. Il demandait de débarrasser l'autre des Juifs. Et Achashverosh voulait de toute façon se débarrasser des Juifs. Il a dit à Haman, tu sais, tu peux prendre les Juifs gratuitement. Tu n'as même pas besoin de m'apporter l'argent. Voilà la réponse de la Gemara. Mais il faut comprendre cette histoire-là. Mais pourquoi il a refusé l'argent? Même dans cette parabole, si quelqu'un il veut t'acheter la terre que tu as en trop et tu veux te débarrasser, mais l'autre il veut payer, alors prends l'argent. Pourquoi tu lui donnes gratuit? Mais le sens il est comme ça. Quand quelqu'un nous propose une affaire, il nous dit je te paye et vends-moi telle et telle chose. Si je dis d'accord, apporte l'argent et je te donne la chose. Mais il se peut que le client n'a pas l'argent chez lui. Il doit chercher l'argent. Et pendant le temps qu'il cherche, et encore c'est pas sûr qu'il trouvera l'argent, pendant ce temps-là, moi je ne me débarrasse pas de mon objet. Mais si moi je suis pressé à me débarrasser de mon objet le plus vite possible, je ne veux pas prendre le risque que l'autre ne trouve pas l'argent. Je dis à l'autre, tu sais quoi, garde ton argent et vas-y, vite, viens et débarrasse-moi de ces terres. Le sens de la Gemara d'Achashverosh, il est comme ça. Quand Haman il a demandé à Achashverosh, je voudrais exterminer les Juifs, mais je comprends que vous risquez d'avoir un trou d'argent parce que les Juifs ils payent des impôts, etc. Ça va vous aller perdre, donc peut-être vous avez des problèmes. Moi, je vous apporte 10 000 kikar kesef. Très bien. Mais Achashverosh, il se dit comme ça, 10 000 kikar kesef eshkol. Je veux peser à l'idée au Sehamalacha, la vie à Ginzia Melech. C'est tout un travail d'apporter des camions et mesurer et peser et apporter. Il faut avoir encore l'argent. Et comme Haman, probablement, il était radin, donc Achashverosh, il se dit, ouais, ça va prendre du temps jusqu'à ce que j'ai cet argent-là. Entre-temps, les Juifs, ils restent chez moi et peut-être le projet tombera à l'eau. Moi, je voudrais me débarrasser des Juifs le plus vite possible. Donc, il a dit à Haman, tu sais quoi, garde l'argent pour toi et tu peux faire avec les Juifs ce que tu veux. Ça, c'est le sens de Achashverosh. Maintenant, c'est à nous de comprendre pourquoi Achashverosh voulait se débarrasser des Juifs. Quel est le sens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait contre les Juifs? Haman voulait se débarrasser des Juifs, on peut d'une certaine manière comprendre. Haman vient de Amalek, Haman ha'agaki. Il vient de ce peuple qui a une haine viscérale contre les Juifs, le peuple d'Amalek. Il faut le analyser, évidemment, comprendre qu'est-ce qu'Amalek a contre nous. Mais en tout cas, c'est un fait. Amalek, on le sait, Amalek veut nous détruire. Et la Torah, elle a dit, « Timchet zecher Amalek ». Viendra le moment que la Torah raconte Hashem dit Macho Emche et Zecher Amalek mitachat Hashemai. Viendra le moment que Dieu enlève Amalek. Donc Haman, c'est un homme qui a dans ses gènes une haine viscérale contre les Juifs. Ça c'est Haman. Mais Achashverosh, à première vue, il n'est pas du peuple d'Amalek. Il n'a pas des gènes dans son sang pour détester les Juifs. C'est un Perse. Bon, c'est un Perse. Ça fait partie des 70 nations. Bon, c'est peut-être pas un ami des Juifs, mais c'est pas un Amaléki. Normalement, la volonté d'exterminer les Juifs, c'est plutôt quelque chose qui est donné à Amalek, non? Et le Perse, un homme Perse, pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait contre les Juifs? Mais le sens, il est comme ça. Une fois que nous avons vu la lettre qui a été écrite par les Shomronim, qui ont mis en garde le roi Koresh, qui ont mis en garde le roi Achashverosh, de surtout pas laisser construire le Beth Amikdash. Le peuple juif, c'est un peuple que depuis des siècles était mauvais pour les nations autour. Ça veut dire, David HaMelech, il a conquis le Proche-Orient, Shlomo HaMelech, il a régné, il était respecté par toutes les nations. Après, il y avait des rois. Les Juifs, ils avaient pendant 4 siècles, depuis Shlomo HaMelech jusqu'au Khorban de Beth Mikdash, un royaume militaire. Il y a des moments où les Goïm faisaient la guerre contre les Juifs et les Goïm gagnaient. Il y a des moments où les Juifs gagnaient. Achav a gagné toutes ses guerres. Menaché, après, il a gagné les guerres. Il y a des moments où on perdait des guerres. Bon, c'était joyeux. C'était joyeux au Proche-Orient. Ça, le sang écoulait beaucoup. Qui était fautif de tout ça? Qui est fautif des invasions? Tout de suite après que Shlomo il est mort, Paronéché, il a essayé de conquérir. Des fois, Amon, Moab, combien de gens ils voulaient conquérir l'Eretz Israël? Les Juifs se sont défendus. Voilà une histoire. En tout cas, ces Shomronim, ils ont écrit une lettre que le royaume des Juifs, c'était le pire qui existait. Tout le monde a souffert d'eux. Et sache-le, monsieur roi de Perse, si les Juifs ils vont construire leur Beth Amikdash, alors la moitié de ton royaume sera amputée. À Tratsi Hamalchut, ils vont amputer la côté ouest. Or, Achashverosh était un empereur, un dictateur. Tous les dictateurs, tous les grands empereurs, ce qui est proche de leur cœur, c'est de régner sur un maximum. Ils veulent être le chef du monde. Le pouvoir est une grande maladie, spécialement quand on est un dictateur, spécialement quand on est un homme comme Achashverosh comme héritier, on n'a pas le droit de régner. En plus, il est sanguinaire, pour un oui et pour un non, il va pendre sa femme pour faire plaisir à son ami, après il va pendre son ami pour faire plaisir à sa femme. En tout cas, ces gens-là, ils veulent régner. Quand on leur explique qu'il y a un risque d'une rébellion, d'un nationalisme qui risque de se faire monter dans son royaume et lui amputer, ils ne supporteront pas. Ça, c'est ce qu'Achashverosh il avait contre les Juifs. Les Juifs, ils risquent de lui enlever une partie de son royaume. C'est pour ça qu'il voulait se débarrasser des Juifs. Mais ce qui est intéressant, qu'il parlait du Beth Amikdash, c'est s'ils construisent le Beth Amikdash, le sens il est comme ça, le Beth Amikdash n'est pas la maison du roi, c'est pas la maison où le chef d'armée habite, mais la maison, le Beth Amikdash, c'est la maison de Kdusha, de sainteté, de religion, de foi, de conviction. Ça veut dire, les Goyim à l'époque, les rois et les Shomronim, ils ont compris que la force du peuple juif, si jamais les juifs, ils réussissent à être forts et défendre leur pays, c'est que grâce à leur culture, grâce à leur conviction, grâce à leur Dieu, grâce à leur attachement, grâce à leur conviction religieuse, qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ont un droit de se défendre, et que les autres nations n'ont pas le droit de nous prendre notre Eretz Israël. Cette religion et cette culture, la source où cette religion est enseignée, où cette religion elle est renforcée, c'est le Beth Amikdash. C'est ça que les Shomronim ont bien compris. Ils ont écrit à Koresi, le Beth Amikdash sera construit. Les Juifs qui habiteront en Jérusalem en Eretz Israël, ils seront forts. Ils vont se défendre et plus tôt ou plus tard, l'Empire perse ne pourra pas régner sur le monde entier. Ça, c'est le secret, pas seulement d'Achashverosh, c'est le secret de beaucoup des empires dans le monde, de beaucoup des dictateurs, avant Achashverosh et après Achashverosh. Et jusqu'à aujourd'hui, Maase Avot Siman Labanim, les événements de l'époque et les événements à notre époque, ils se ressemblent. Eretz Israël, c'est un pays où pas seulement les Amalekim veulent nous voir disparaître du monde. Il n'y a pas que Amalek qui veut se débarrasser du peuple juif en Eretz Israël, même d'autres qui ne sont pas forcément des Amalek, mais qui ressent, qui s'imagine, qui subodore, qui ressent que si les Juifs sont en Eretz Israël, les Juifs, leur religion, leur Beth Amikdash fera de la sorte qu'eux ne vont pas régner de façon absolue sur le monde. C'est ça qui les gêne. Et ça, c'est différents pays qui peuvent être au nord d'Eretz Israël, qui peuvent être à l'est d'Eretz Israël, qui peuvent être au sud d'Eretz Israël, qui peuvent être à l'ouest, qui peuvent être en beaucoup des endroits dans le monde. Même aujourd'hui, ça c'est le grand secret, mais je voudrais revenir à Achashverosh. Achashverosh, il était assis sur le trône. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Une fois qu'il a donné la bague à Haman, vas-y, tu peux me débarrasser le peuple des Juifs, il était le troisième jour assis al kisei malchuto. Le texte il dit vayi bayom ha-shelishi va-til ba-shester malchut va-tarot ba-chatzar ha-melech ha-pnimit nochach betach bet-ha-melech va-melech yoshev al kisei malchuto. Il était assis sur son trône et Esther se présentait. Pourquoi la Megillah nous raconte il était assis sur son trône? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche s'il est assis sur le trône? Il est assis sur un lit, il est sur un vélo, il est couché, il est debout, il est... Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche où il est assis? Esther est venue, voilà, c'est tout. Et après, Achashverosh, il discute avec Esther. La Megillah nous raconte il était assis sur son trône. Mais assis sur le trône, que Shevet Hamelech Achashverosh al Kisei Malchuto, la Gemara traduit, il était fortement assis sur son trône. Pas seulement son trône physiquement, ça ne veut pas seulement dire il était assis sur le trône, évidemment physiquement aussi, mais assis sur le trône veut dire il était bien assis. Ça veut dire quoi? Achashverosh, il dit, maintenant que je donnais le pouvoir à Haman d'exterminer les Juifs, mon trône, il est assis. Maintenant, l'Empire perse va rester, comment il disait Hitler, l'Empire de Milan, voilà, l'Allemagne, elle va régner pendant 1000 ans, voilà, le roi de Perse, il se dit, maintenant je me débarrasse des Juifs, mon trône, il est fort, je suis bien assis. Enfin, maintenant nous allons nous mettre un peu dans la tête d'Achashverosh. Il faut bien jouer cette scène. Achashverosh assis sur son trône en train de méditer. Qu'est-ce qu'il médite? Ma Baruch Hashem, voilà les Juifs, je me suis débarrassé. Il n'y a plus de crainte, ni des prophètes, ni des Juifs, ni de Jérusalem, ni de David, ni de Shlomo. Enfin, tous ces gens-là qui auraient pu me prendre la moitié de mon royaume, voilà ce temple de Jérusalem, c'est fini, enfin. Et quand il est en train de rêver, de vivre toute cette scène devant ses yeux, il voit Esther se présenter. Esther se présente à Achashverosh, il est dans son délire de rester éternellement l'empereur de Perse, il tend le sceptre, Esther touche. Achashverosh dit, Malach Esther Amalka, ma bakashatech, qu'est-ce que tu as Esther Amalka? Quelle est ta demande? Mais tout ce que tu me demandes, je te dis, jusqu'à quoi? Jusqu'à la moitié du royaume. C'est quoi la moitié? Jusqu'à la chose qui risque de me amputer la moitié du royaume du Beth Amikdash. Nous avons demandé au début du cours. Mais il ne sait même pas qu'Esther est juive. Mais pourquoi veux-tu qu'Achashverosh il pense à Beth Amikdash? Mais la réponse, elle est. Mais toute la raison pourquoi Achashverosh a permis à Haman de tuer les Juifs, ça a été pour que son royaume ne sera pas amputé à la moitié, que son royaume reste fort et qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash. Ça, c'est la pensée, mais c'est ça qu'il méditait. Il est assis sur son trône. Il ne pense qu'à ça. Quand Esther, elle demande quelque chose, Achashverosh ne rentre pas dans la tête de Esther, mais il répond d'après ce qui est dans sa tête, l'idée qui le préoccupe, l'idée que lui-même il médite. Tu peux demander tout, la reine Esther, sauf le Beth Amikdash, et amputer la moitié d'un royaume, ça tu ne peux pas demander. Ça c'est une réponse. Ça, c'est le lapsus révélateur. Ça veut dire, cette parole relève que la pensée d'Achashverosh, ce moment-là, tournait autour de la question du Beth Amikdash, autour de la question de perdre la moitié du royaume. Et c'est ça qui était la raison pour laquelle il a donné la permission à Haman de tuer les Juifs. C'est pour ça qu'il a refusé l'argent d'Haman. Je veux me débarrasser le plus vite possible. Et comme je disais avant, Maase Avot Siman Labanim, les événements qui se passent dans notre époque aussi, il faut bien analyser qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël. Est-ce que c'est ce que Amalek qui veut Eretz Israël, ou est-ce que ce sont d'autres pays aussi? Peut-être c'est aussi des descendants de Achashverosh ou du genre qui ont peur que leur pouvoir, leur totalitarisme, leurs idées, leurs ambitions totalitaires ne pourront pas se réaliser tant qu'il y a des juifs, tant qu'il y a du Beth Amikdash. Ils ont peut-être peur du Beth Amikdash. On disait à l'époque que Hadja Al-Amin, là, le Mufti de Jérusalem, qui disait à l'époque, en 1920, qu'il veut à aucun prix que les Juifs vivent en Eretz Israël, après la déclaration de Balfour, il a dit, les Juifs, ils viennent pour construire le troisième Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il faut les empêcher. En vérité, pour bien comprendre le Maaseh Avot Siman Levanim, si on prend le livre de Hitler, si on prend le protocole des sages du Sion, et si on prend la lettre qui est écrite dans le livre de Ezra, chapitre 4, si on prend ces lettres, qu'est-ce qu'ils ont parlé mal des Juifs pour empêcher la construction d'Eretz Israël, pour empêcher la construction du Beth Amikdash et de Yerushalayim, eh bien, les choses y se ressemblent très très fortement. Et d'ailleurs, comme ils disent les Gandavines, elle est écrite quelque part que le troisième Beth Amikdash sera aussi construit de la même façon comme le deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire que les Juifs vont demander la permission au roi Goy de construire. Ils vont demander la permission de revenir en Eretz Israël. Mais le Maasé, quand les Juifs ils ont demandé la permission, malgré qu'au début ils avaient la permission, tout de suite on leur a enlevé la permission au XXe siècle, comme ça a été aussi à l'époque de Koresh, comme c'était l'époque d'Achashverosh. Et l'histoire, évidemment, elle va finir aujourd'hui aussi, comme elle a fini à l'époque. Le deuxième Beth Amikdash était enfin construit, et le troisième sera aussi Bezrat Hashem construite pour une Sameach.